Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Au plaisir de vous retrouver pour cette édition de 8h. Bonjour et bienvenue. Le taux de prévalence du sida au Mali est de 1,1%. Tout en se réjouissant de cette baisse, les autorités ont réitéré leur engagement à mettre fin au sida d'ici 2030. L'annonce a été faite hier lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la maladie. La situation des zones occupées par des groupes armés se décante peu à peu. Sur place, des habitants se disent rassurés de voir des patrouilles des forces armées maliennes aux alentours de la ville. À Tombouctou, des habitants alertent sur la dégradation de certains symboles de la ville classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour faire face à la situation, ils interpellent les autorités à des actions concrètes. Plus de détails dans ce journal présenté par Moumine Sendebou, Gani Kanté assure la mise en onde. Comme bien indiqué dans les titres, le lancement de la journée mondiale du mois de lutte contre le sida a eu lieu jeudi à Bamako. Le thème national est « Mobilisons-nous pour un Mali sans inégalité et sans sida ». Le taux de prévalence du sida au Mali est de 1,1% selon les acteurs de lutte contre le fléau. Ceux-ci se réjouissent des activités qui ont permis de baisser ces taux. Cependant, ils affirment que beaucoup reste à faire sur le terrain. C'est pourquoi des plaidoyers ont été faits au cours de cette cérémonie. Khalifa Goïta pour plus de détails.
Cette journée est célébrée dans un contexte de Covid où les personnes atteintes du VIH-Sida restent confrontées à de nombreuses difficultés. Celle-ci interpelle les autorités à plus d'actions pour atteindre l'objectif qui est l'élimination du Sida d'ici 2030. Madame Aïdara Fatouma Diarra, présidente du réseau malien des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida.
Le fait d'être stigmatisé et autres, ce qui nous fait très mal, que les soignants s'occupent vraiment de nous. Mais ce qui nous inquiète, ça c'est par rapport aux médicaments, les analyses biologiques, tout est financé en majeure partie par l'extérieur. Alors qu'ils sont en train de se retirer maintenant. Nos accompagnants psychosociaux, qui sont nos bras valises, ils sont en majeure partie sur des projets. Et nous, on souhaiterait qu'ils soient pris en charge par le gouvernement malien.
Les autorités de la transition disent rester à l'écoute des plaidoyers des personnes séropositives. Pour le chef du gouvernement, le thème national est interpellateur. Shogel Kokala Maïga s'est engagé à prendre un certain nombre de mesures pour soulager les personnes infectées.
La prévention de la transmission du sida de la mère à l'enfant restera une priorité. Un appui alimentaire pour une valeur de 30 millions de francs CFA permettra à cette couche de la population de résister face aux conséquences de la double pandémie du sida et de la Covid-19. D'offrir aux femmes vivant avec le sida et à leurs enfants orphelins un appui financier de 30 millions pour le développement, pour les activités génératrices de revenus des femmes.
La cérémonie de lancement du mois de lutte contre le VIH-Sida a été lancée en présence de plusieurs acteurs intervenant dans la lutte contre la maladie. De nombreuses activités de sensibilisation seront organisées pendant ce mois de décembre pour lutter contre le fléau.
C'était un reportage signé Khalifa Goïta. À 8h passées de 3 minutes, réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Les défenseurs des droits de l'homme plaident pour la création d'un bureau d'assistance juridique auprès des tribunaux. Selon eux, ce système renforcera la protection des victimes de l'esclavage par ascendance au Mali. Ces anti-esclavagistes l'ont annoncé ce 2 décembre au cours d'une conférence débat à l'occasion de la Journée mondiale pour l'abolition de l'esclavage. Cette deuxième édition a été célébrée sous le thème « L'esclavage par ascendance au Mali, un frein pour la paix et la cohésion sociale ». Moussa Mali Sissoko nous en dit plus.
Le coordinateur national du mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme rappelle que l'objectif de cette journée est d'accentuer la communication sur la pratique de l'esclavage par ascendance. Boubacar Djim déplore que ces formes d'esclavage contribuent à la discrimination de certains groupes dans la société.
L'esclavage par ascendance est la forme de l'esclavage la plus répandue au Mali et a pris une autre tournure dans la région de Kaï avec plusieurs assassinats qui n'honorent pas notre notre cher pays. Cette pratique est également fréquente au nord et au centre du pays.
De son côté, Salif Fofana, directeur exécutif de l'Amnesty International Mali, demande au gouvernement plus d'assistance pour les victimes d'esclavage.
Aujourd'hui, ces victimes ont besoin de deux choses, l'assistance et la protection. Le tribunal de grande instance de Kaye a besoin de ce système. Je plaide pour que d'ici la fin de l'année, qu'un bureau d'assistance judiciaire soit vraiment auprès du tribunal de grande instance de Kaye. Pourquoi ? Parce que ça peut faciliter l'accès des victimes à la justice.
Face à cette requête, le représentant du ministre de la Justice promet que le département s'attellera pour donner satisfaction. Jakaria Doumbia regrette que cette pratique sape les efforts de l'État en matière de protection des droits de l'homme.
Dans le cadre de la réécriture du code pénal, la question de l'esclavage sera débattue et très certainement intégrée dans l'ordonnancement juridique de notre pays. Mais en attendant, le ministre de la Justice a par lettre instruit aux procureurs généraux près les cours d'appel de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'engager des poursuites contre toute personne impliquée dans les actes en lien avec le phénomène.
En dépit des efforts menés par les défenseurs des droits humains, la pratique continue dans la région de Kaye. Selon les rapports, elle a provoqué le déplacement des femmes et des enfants, causé des morts et des blessés.
Cap sur un autre sujet, le commissariat du 1er arrondissement a arrêté dans la journée du 26 novembre dernier deux suspects portant des armes et une grande quantité de munitions dans le grand marché du district de Bamako. Selon Abdourahmane Alassane, commissaire principal du dit commissariat, ces deux individus ont été mis à la disposition de la justice et des enquêtes sont en cours pour rechercher tous les autres complices. Il est au micro de Sita Sidibé.
Dans la journée du 26, nos éléments de patrouille quand même dans le marché ont été tiqués par la présence de deux individus suspects qui portaient un sac. Leur intuition de policier les a permis quand même de les arrêter. Heureusement, lors de la fouille, ils ont trouvé à l'intérieur du sac un PM bien camouflé. Ils les ont conduits au poste de police pour une fouille minutieuse. Et cette fouille a vraiment confirmé que c'était réellement un PM, un pistolet mitrailleur, plus de 500 munitions, chose qui est très très dangereuse et surtout en plein marché. Donc, alertés, je les ai demandé de les conduire au commissariat pour pousser l'enquête. Dans la conduite de l'enquête, on s'est rendu compte quand même que ces gens-là étaient venus au marché pour payer l'arme. Et malheureusement, au moment de leur interpellation, celui qui est venu leur vendre l'arme a déjà pris la tangente. En tout cas, ils sont tous des Maliens. Seule l'information réelle, l'information rapide pourra nous permettre de sécuriser cette population.
Un calme précaire règne dans une certaine localité de la région des Ségou, devenue presque l'épicentre de l'insécurité. À Djabali et à Dogofri, les populations s'allient les patrouilles qui mènent les forces armées maliennes. Celles-ci lancent encore un cri de guerre aux autorités afin que leur localité soit totalement libérée des mains des hommes armés non identifiés. Le point avec Elisabeth Walet Mohamed.
Dans le cercle de Niono, région de Ségou, la vie semble reprendre petit à petit son cours normal à Dogofri, affirme une autorité locale. Les habitants sont soulagés de voir les patrouilles des forces armées maliennes aux alentours de la ville. Ils encouragent les autorités à intensifier ce genre d'action dans les autres localités afin d'aboutir à leur libération totale. Toujours dans la même zone, à Djabali, des sources locales soulignent que la situation sécuritaire de la localité s'améliore. Cependant, les habitants déplorent la cherté des denrées de première nécessité. Contrairement à Dogofri où le calme règne, à Farabougou, la situation demeure la même, indique un habitant de la localité. Pour ce dernier, cette situation a engendré un déplacement massif de la population et une cherté de la vie. Ni les petits commerces, ni les travaux champêtres ne sont plus possibles dans la localité, précisent d'autres sources sous couvert d'anonymat. Notons que d'autres localités du pays, notamment la commune de Boura, sont en proie à l'insécurité. Des hommes armés non identifiés profèrent des menaces à l'endroit de la population dans la zone.
Je l'annonçais dans les titres, la ville de Tombouctou est confrontée aujourd'hui à une déperdition des mœurs et des coutumes religieuses, regrettent des habitants de la région. Cette situation menace et dégrade le patrimoine culturel de la cité des 333 saints, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Pour faire face à cette nouvelle attitude, des habitants qui ternit l'image et l'identité de la ville, ses ressortissants interpellent les autorités à des actions concrètes. On en sait plus avec Lalaïcha Walet Infa.
Le constat est critique. Les patrimoines agressés, les mosquées désacralisées, les symboles sont pervertis, les mausolées dépréciées, les cimetières méprisés. C'est l'amant San Shirfi Alpha. Selon cet homme de culture, ces agissements mettent en danger les patrimoines culturels de la région.
Tombouctou est une ville exceptionnelle. Et cela à cause de certains symboles. Mais on a remarqué ces derniers temps que les gens construisent leurs kiosques à l'intérieur des cimetières. Il faut même de la viande grillée à l'entrée de certains cimetières. Donc ça, c'est une façon de déprécier les cimetières.
Selon l'écrivain, il appartient désormais aux Tomboucticiens de prendre soin de leurs symboles culturels. Cependant, il exhorte tout de même les autorités à plus d'engagement et d'actions concrètes pour préserver ces patrimoines culturels. San Shirfi Alpha.
L'UNESCO ne peut que financer la reconstruction, mais la sauvegarde appartient aux populations. L'imam, il ne lui appartient pas seulement de diriger la prière, c'est lui qui doit dire le comportement qu'il faut avoir vis-à-vis d'une mosquée. Et les gardiens d'autres sites, ils doivent être là pour mettre les gens en garde. Ce sont les autorités qui doivent le faire.
Pour cet homme de culture, la ville d'Ahmed Baba, de Mahmoud Kati, de Mohamed Bagayogo, de Sidi Yahya Al-Andalusi, de Mohamed Ben Oumar Akit, ne serait plus que l'ombre d'elle-même si ses fils ne sortent pas de la léthargie et la défendent.
Page 117 édition. À la date du jeudi 10 décembre 2021, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 72 nouveaux cas positifs de COVID-19, 24 patients guéris et 1 décès. La situation cumulée est de 17 572 cas positifs, 15 199 patients guéris et 611 décès. C'est ce qui nous conduit à notre chronique Acti-Covid présentée par Aïssata Diarra.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre bulletin d'information sur la COVID-19. Le saviez-vous? Les nouveaux variants de la maladie à coronavirus se multiplient de jour en jour. Les derniers variants de l'Afrique du Sud, dénommés Omicron, sèment la panique actuellement. Est-ce que ce variant est au Mali? Quelles sont les mesures prises pour l'endiguer? Professeur Yacouba Toloba, point focal du centre de traitement de la COVID-19 à l'hôpital du Point G, donne des éclaircissements.
Parlons-en du dernier variant Omicron en Afrique du Sud. Il y a eu ce variant, ça a pratiquement quadruplé les cas de COVID. De 300 par jour, ils sont passés à 6000. Ça veut dire qu'il a une capacité de transmission qui est là. Dans notre pays, on n'a pas cherché ces variants tout de suite pour vous dire s'il y a Omicron ou pas. De l'Afrique du Sud, à moins de 72 heures, ça se retrouve en Asie, en Europe. Pourquoi pas au Mali? Il y a quand même des échanges entre l'Afrique du Sud et le Mali à cause des zones minières. Mais il y a eu quand même une réunion. On a demandé au conseil scientifique de voir l'évolution de ces variants au Mali et ça va se faire. On est en perpétuelle réunion. Pour réactiver tout ce qu'on avait fait au départ.
Mais est-ce que les mesures barrières que nous avons maintenant sont efficaces contre ce variant?
Ah oui, les mesures barrières sont tout simplement efficaces contre la transmission et aussi la vaccination.
La campagne de vaccination contre la COVID-19 a pris fin vendredi dernier à Yorosso. Pendant 10 jours, les équipes de vaccination ont sillonné les villages du cercle. Les 13 000 doses du vaccin Sinovac reçues par le district sanitaire de Yorosso n'ont pas suffi. Il a fallu 2 000 autres doses envoyées par le district sanitaire de Kuchala pour poursuivre la campagne. Les autorités sanitaires de Yorosso se disent satisfaites du bon déroulement de la campagne. C'est ce qui met fin à ce numéro d'activité COVID. Merci d'être à l'écoute. N'oubliez pas de porter vos masques pour une protection maximale.
Studio Tamani. Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Un tour dans la région, la gestion des frontières et la coopération frontalière étaient au centre d'une rencontre entre Maliens et Nigériens ce mercredi à Gao. Les représentants des deux pays ont échangé sur la sécurisation et la stabilisation des régions de Gao au Mali et Tillabéri au Niger. La rencontre a été organisée par l'Organisation internationale pour les migrants et ses partenaires. Une campagne de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles est en cours dans le cercle de Bankas. Le programme a démarré le 25 novembre dernier et se poursuivra jusqu'au 10 décembre 2021. Parmi les activités, une conférence débat et un match de football. Ces journées sont organisées par le service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille en collaboration avec le cadre de concertation des protections de violences faites aux femmes. Des travaux de réhabilitation des infrastructures scolaires ont commencé cette semaine à Kay. Le directeur du centre d'animation pédagogique de Kay, Rive Gauche, a visité certaines écoles en chantier dans sa circonscription mardi dernier. L'objectif était de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Et c'est ici qui met fin à cette édition, la version en Bambara, tout à l'heure avec Aïssata Diarra. Merci pour votre fidélité au programme des studios Tamani. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web www.studiotamani.org ou appeler gratuitement sur Viamo au 37 321.